Sur votre radio locale, sur Radion, il est un peu plus de 21h. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en ce mercredi 14 février 2018. C'est la Saint-Valentin. Alors saluons tous les amoureux, mais vous aussi, auditrices et auditeurs, vous êtes des amoureux de bons livres, de lectures enrichissantes, de rencontres avec les auteurs que nous lisons, que nous rencontrons et interviewons pour vous avec le souci constant depuis la création de Wagon Livre sur l'antenne de votre radio locale de faire connaître des auteurs, de partager avec vous nos coups de cœur et des informations sur les salons du livre en Bourgogne notamment. Ce soir, nous allons vous offrir des textes qui ont été lus et enregistrés par nos soins lors de la deuxième nuit de la lecture programmée par le ministère de la Culture le 20 janvier dernier dans les très nombreuses bibliothèques et médiathèques de France, sans oublier les librairies. C'est une manifestation qui était cette année parrainée par l'écrivain Daniel Pénac. Et de notre côté, nous nous sommes rendus à Vézelay, à la librairie L'Or des Étoiles, au 29 rue Saint-Étienne, où Francette et Laurent Equet célébraient cet événement en proposant des lectures dans leur commerce. La comédienne Sylvia Lipa-Lacarrière et le romancier vézelien Jean-Pierre Canet avaient, parmi d'autres, répondu présent à cette formidable opération de promotion de la lecture qui s'adresse à tous, grands lecteurs, lecteurs occasionnels et futurs lecteurs. Alors avec l'accord de nos amis libraires, nous avons installé le micro de Wagon Livre et nous avons enregistré, avec leur accord, les lectures offertes par les personnes venues à la librairie L'Or des Étoiles pour faire briller cette deuxième nuit de la lecture. Ce sont donc ces lectures qui vont ce soir nous unir par la plus belle, la plus simple et la plus pure des émotions, le plaisir de lire. Bon début de soirée en notre compagnie sur le 90.5 en FM dans Lyon et aux quatre coins de Bourgogne et de France sur radion.fr. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. I'm
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Débutons notre rendez-vous littéraire avec de la poésie. Et notamment un poème de René Char, lu par la comédienne Sylvia Lipa-Lacarrière. Tout de suite, voici la complainte du lézard.
N'égrène pas le tournesol, tes cyprès auraient de la peine. Chardonneret, reprends ton vol et reviens à ton nid de laine. Tu n'es pas un caillou du ciel pour que le vent te tienne quitte, oiseau rural. L'arc-en-ciel s'unifie dans la marguerite. L'homme fusille, cache-toi. Le tournesol est son complice. Seules les herbes sont pour toi, les herbes des champs qui se plissent. Le serpent ne te connaît pas, et la sauterelle est bougonne. La taupe, elle, n'y voit pas. Le papillon ne hait personne. Il est midi, Chardonneret. Le sénesson est là qui brille. Attarde-toi, va, sans danger. L'homme est rentré dans sa famille. L'écho de ce pays est sûr. J'observe, je suis bon prophète. Je vois tout de mon petit mur, même tituber la chouette. Qui, mieux qu'un lézard amoureux, peut dire les secrets terrestres? Ô léger gentil roi des cieux, que n'as-tu ton nid dans ma pierre?
Quel plaisir d'entendre un poème de René Char. René Char, le poète né dans le Vaucluse, à Lille-sur-la-Sorgue, en 1907, et qui est mort à Paris, il y a 30 ans exactement, le 19 février 1988. La rencontre avec Paul Éluard en 1929 incite le jeune homme à rejoindre Paris, où il découvre Aragon, Breton et les surréalistes, groupe auquel il adhère un temps avant de s'en éloigner en 1934. Durant les années 1939-1945, période névralgique de la Seconde Guerre mondiale, René Char, homme de révolte et de colère, ne peut se contenter d'un attentisme passif. Sous le nom de Capitaine Alexandre, il participe activement à la résistance. Ami d'Albert Camus, avec qui il entretient une longue correspondance, René Char s'adonne également au dessin et à la peinture. Les Matinaux, 1950, La parole en archipel, 1962, Fenêtre dormante et porte sur le toit, 1979, toute l'œuvre poétique met en mots le combat obstiné contre la mort et l'oubli, célèbre et sublime le culte de la beauté et de l'amour. Il y a quelques minutes, donc, sur Radion, à bord de Wagon Livre, vous avez pu entendre La complainte du lézard, poème de René Char, lu par la comédienne Sylvia Lipa-Lacarrière. Un peu de prose romanesque, tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'extrait que nous allons vous proposer, puisqu'il s'agit de l'incipit d'un roman de Patricia Juteau, Amours amers, paru chez Edilivre en 2014.
C'est un petit coin de verdure où coule une rivière, Vauclay, joli petit village dans un vallon de la Nièvre. Son clocher domine les vallées environnantes. Nous vivons dans un joli moulin au bord de l'Anguison, maison de famille de mon mari dans le plus pur caractère morvandiaux, baigné par le cours d'eau qui alimentait la roue du moulin à grains depuis plusieurs générations. En outre, perdu au milieu des ronces et des orties, il fallait avoir un esprit d'explorateur pour découvrir dans le fond du jardin les vestiges d'un des rares moulins à huile de la région. Un jour, une très petite vieille dame vêtue d'une robe noire, d'un délicieux tablier joliment brodé et d'une coiffe en linon blanc qui semblait d'un autre temps, me raconta que, petite fille, elle menait son âne tirant une charrette pleine de navettes, sorte de colza, qui illuminait les prés de leur couleur jaune. Ses fleurs étaient broyées et on en tirait une huile d'usage courant dans ce même moulin. Il en reste une magnifique meule en granit, des compressés de grains et encore les presses, certes en mauvais état, mais cela éveille tant de questions sur le siècle dernier. Quelle avait été la vie? Quelle avait été sa vie, sa jeunesse dans ce Morvan si rude? Je pense peut-être que sa mère avait dû être une des célèbres nourrices de la région, comme l'avait été la grand-mère de mon mari, très recherchée au siècle dernier pour élever les enfants des riches familles des grandes villes de France. Les lumières sont chaudes devant moi, coule cette petite rivière, les jolies libellules bleues irisées semblent goûter l'eau avec beaucoup de délicatesse, de tout petits insectes volent en essaim, comme pour profiter des derniers rayons du soleil. Il est 6 heures. Un brouillard enveloppe les champs aux alentours. Les jaunes ocres se mêlent au vert flétri par la chaleur. Je repense à ma vie dans le calme de ce chaud été où tout est paisible, tout sauf mes souvenirs qui se mêlent et veulent sortir de ma tête en se bousculant comme si cette nature paisible allait me permettre enfin de trouver la quiétude.
C'était un extrait de « Amours amers » paru chez Edilivre en 2014, un roman de Patricia Juteau. Nous poursuivons cette fois avec un texte de Jung lu par notre ami libraire Laurent Ecquet.
Une amie qui vient de publier un ouvrage assez remarquable, « Je pèse mes mots ». Alors évidemment, c'est un nouveau... Oui, c'est le livre, oui, tout à fait, sur un sujet un peu sérieux. On n'est pas dans la fiction. Ça s'appelle Jung et la gnose. Elle s'appelle Françoise Bonnardel. Elle est à la fois philosophe et historienne des religions. Elle est d'ailleurs titulaire d'une chaire sur ce sujet à l'Université de Paris-Sorbonne. Et elle allie une très grande érudition à beaucoup de rigueur et aussi une dimension d'intériorité qui est très belle, un peu comme Marie-Madeleine David dont je parlais tout à l'heure. Et elle a beaucoup travaillé sur le livre rouge de Carl Gustav Jung, je précise. Il y a d'autres livres rouges très célèbres, merci à vous. Et dans le livre rouge de Carl Gustav Jung, puisque nous sommes la nuit, que la nuit est bien installée, au moins jusqu'à demain matin, elle a sélectionné ce tout petit extrait qui est donc un texte de Jung. « Quand tu reçois les ténèbres, elles te saisissent. Elles te submergent, comme la nuit avec ses ombres bleues et ses innombrables étoiles scintillantes. Le silence et la paix te recouvrent quand tu commences à comprendre les ténèbres. Seul celui qui ne reçoit pas les ténèbres redoute la nuit. Honore les ténèbres comme la lumière. Ainsi, tu éclaireras tes ténèbres. Quand tu reçois ce qu'il y a de sombre, de nocturne et d'abyssal en toi, tu deviens très simple et tu te prépares à dormir comme tous l'ont fait à travers les millénaires et tu t'enfonces en dormant dans le giron des millénaires et tes murs résonnent des chants qui emplissaient autrefois les temples. Car c'est le simple qui a toujours été. Le silence et la nuit bleue s'étendent au-dessus de toi, tandis que tu rêves dans le tombeau des millénaires. » Cet extrait du livre rouge de Carl Gustav Jung, qui a été publié il y a quelques années en France. Longtemps, ce texte est resté connu de quelques initiés proches des milieux jungiens, la famille de Jung s'opposant d'ailleurs à sa publication. Et puis il est paru en Allemagne, au Japon, en Italie, aux États-Unis. Il a fini par paraître en France en 2011, je crois, dans une magnifique version reproduisant le codex d'origine, car c'est un codex que Jung a enluminé et écrit sur parchemin, et dont l'original a été exposé au musée Guimet en France et dans quelques autres lieux en Europe. Il y a quelques années, voilà. Il existe une très belle version, donc reproduisant l'original, et une version texte seul dans une édition, voilà, le manuscrit original, calligraphié et enluminé par le Carl Gustav Jung. Et il existe une version où il y a le texte seulement, et ceci est extrait. de ce texte.
C'était un extrait du livre rouge du psychologue Carl Gustav Jung, lu par le libraire vézelien Laurent Ecquet. Le livre rouge de Carl Gustav Jung a été édité en 2011 en France. Il l'avait été en 2009 dans une version britannique et allemande. En 2011, la version française du livre rouge est enfin parue aux éditions L'Iconoclaste et la Compagnie du Livre Rouge, une édition établie, introduite et annotée par l'universitaire britannique Sonu Chamdasani. C'est un somptueux manuscrit calligraphié, enluminé et illustré de la main de Carl Gustav Jung. Il y a d'ailleurs un exemplaire que vous pouvez à la fois feuilleter, mais que vous pouvez aussi acheter à la librairie L'Or des Étoiles à Vézelay. Très bonne soirée à toutes et à tous. Compte rendu de cette deuxième nuit de la lecture à Vézelay, à la librairie L'Or des Étoiles. C'était le 20 janvier dernier. On marque une nouvelle pause musicale à bord de Wagon Livre et nous sommes ensemble sur Radion jusqu'à 22h.
Un peu saoul, je déambule sur les lignes du métro. Crépuscule sans héros, solitude dans le rétro. J'éteins mon mégot sur le cœur des Jedi. Les yeux vitreux, je les mitraille. Un peu saoul, sans matricule, j'écume la nuit noire. Je consomme du bonheur que je perds sans savoir. Je t'oublie quand je me déhanche, je souris sauf le dimanche. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves au cauchemar. Mes espoirs se brisent, adolescent pirate sur les plages de bitume. Chaque nuit je m'évade, je voyage, 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 voyage. Je voyage, 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 je voyage. Je n'écoute plus ces léopards qui me racontent des histoires sous leur blouse de motard. Accoudés au bar, j'éteins leur ego, je n'aime plus leur regard. J'ai le cœur balançoire, je passe des rêves au cauchemar.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le 20 janvier dernier, nous nous sommes rendus à Vézelay, à la librairie L'Or des Étoiles, au 29 de la rue Saint-Étienne, où Francette et Laurent Ecquet célébraient la deuxième nuit de la lecture en proposant des lectures dans leur librairie. Alors la comédienne Sylvia Lipa-Lacarrière et le romancier vézelien Jean-Pierre Canet avait répondu présent à cette manifestation. Vous entendrez Jean-Pierre Canet la semaine prochaine, 21 février. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, on retrouve la comédienne Sylvia Lipa-Lacarrière qui nous donne lecture d'un autre poème de René Char.
Une clochette tinte sur la pente des mousses où tu t'assoupissais, mon ange du détour. Le sol de gravier nain était l'envers humide du long ciel, les arbres des danseurs intrépides. Trêve sur la barrière de ton museau repu d'écume, jument de mauvais songes, ta course est depuis longtemps terminée. Cet hivernage de la pensée occupée d'un seul être, que l'absence s'efforce de placer à mi-longueur du factice et du surnaturel. Ce n'est pas simple de rester hissé sur la vague du courage quand on suit du regard quelque oiseau volant au déclin du jour. Je ne confonds pas la solitude avec la lyre du désert. Le nuage cette nuit qui cerne ton oreille n'est pas de neige endormante, mais d'embrun enlevé au printemps. Il y a deux iris jaunes dans l'eau verte de la sorgue. Si le courant les emportait, c'est qu'ils seraient décapités. Ma convoitise comique, mon vœu glacé, saisir ta tête comme un rapace à flanc d'abîme. Je t'avais maintes fois tenu sous la pluie des falaises comme un faucon encapuchonné. Voici encore les marches du monde concret. La perspective obscure où gesticulent des silhouettes d'hommes dans les rapines et la discorde. Quelques-unes compensantes règlent le feu de la moisson, s'accordent avec les nuages. Merci d'être sans jamais te casser, Iris, ma fleur de gravité. Tu élèves au bord des eaux des affections miraculeuses. Tu ne pèses pas sur les mourants que tu veilles. Tu éteins des plaies sur lesquelles le temps n'a pas d'action. Tu ne conduis pas à une maison consternante. Tu permets que toutes les fenêtres reflétées ne fassent qu'un seul visage de passion. Tu accompagnes le retour du jour sur les vertes avenues libres.
Un bref texte qui nous a été envoyé par Michel Bourgon. Michel Bourgon fait partie de ces écrivains qui ont été véseliens d'adoption pendant quelques mois. Elle a fait partie des résidentes de la maison Jules Roy, il y a quelques années. Je ne saurais pas très bien situer précisément dans le temps, puisque ça n'a pas beaucoup d'importance, à vrai dire. Mais j'ai un souvenir chaleureux et sympathique de cette personne qui a publié à l'issue de sa résidence un texte dont le titre est un peu étonnant et qui n'existe, je crois, que sous version numérique. Si jamais vous voulez lire le texte complet, je pourrais vous envoyer le lien vers lequel on trouve le texte, publié par les éditions du Vermillon au Canada, puisqu'elle est d'origine québécoise. Il y a régulièrement des auteurs québécois en résidence à la maison Jules Roy à Vézelay. Et le texte s'appelle donc « Il n'y a pas de souci ». Et elle a écrit ceci à Vézelay. « La cloche sonne midi. Elle tinte délicieusement. Dans quelques minutes, une autre cloche d'église sonnera midi. Comme une deuxième chance ou un deuxième avertissement que le temps passe et nous emporte tous. Qu'il faut profiter de l'instant présent. » Parce qu'il ne reviendra pas. Le sillage de deux avions forme un V. Vézelay, victoire, vie. En ce moment, mon âme est belle. Je laisse la tristesse prendre possession de moi. J'arrête de me rebeller. Je laisse couler. Combien avant moi sont venus ici, le cœur plein de désespoir, et sont repartis apaisés. J'affronte mes angoisses, tout me paraît si grand. Et si la vie était un pèlerinage? Et si j'étais au bon endroit, au bon moment, pour une fois? Chaque chose a son complément. Où est le mien? Je suis une partie du tout, et le tout est aussi en moi, comme il est en dehors de moi. Je suis ombre et lumière, je suis joie et désespoir.
Continuons à explorer cette deuxième nuit de la lecture à travers les enregistrements que nous avons réalisés le 20 janvier dernier à Vézelay, à la librairie L'Or des Étoiles. Vous allez entendre dans quelques secondes la Sourate de la vacuité, extrait de Sourate, paru en 1990, un recueil de méditations à caractère poétique. Il s'agit d'un ouvrage de Jacques Lacarrière, qui nous a quittés en 2005. Sans tarder, voici la Sourate de la vacuité de Jacques Lacarrière, introduite par quelques propos liminaires de Jean-Pierre, présent à la librairie L'Or des Étoiles le 20 janvier dernier.
Alors, Sourate, oui, ça fait partie de mes... J'en parlais avec Sylvia à plusieurs reprises, ça fait partie de mes livres de chevet, voilà, que je reprends de temps en temps. Voilà, c'est... Je dirais que c'est des petits billets. Pour moi, je sens ça comme des petits billets. C'est des fois des écrits, comme un mouvement d'humeur. Ça n'a rien à voir avec Poussière du Monde ou beaucoup d'autres livres de Jacques Lacarrière. Sourate de la vacuité. Alors pourquoi cette sourate? Parce que j'avais entendu vacuité tout à l'heure, dans le texte que vous nous avez lu. Et j'ai un peu tiqué. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être une façon différente de parler de cette vacuité. Vacuité. Écartons d'emblée l'une des acceptions particulières de ce terme qui signifie l'état d'une femelle non gravide. Eh oui. Et qui semble d'ailleurs fort peu usité aujourd'hui. Dans le monde rural où je vis depuis des années, en effet, je n'ai jamais entendu dire d'une vache qui ne pouvait véler qu'elle était en état de vacuité. Au sens propre, vacuité désigne un état de vide, dans un contenant, un corps ou un milieu physique, et au sens figuré, le vide d'une pensée, d'une idée, d'un discours. Il est d'ailleurs proche ou cousin germain du terme vacant, qui a donné vacances et qui désigne aussi un état de vide. Une vacance de l'esprit n'a évidemment rien à voir avec un esprit en vacances. Et... dirait au contraire un état proche de l'hébétude. Quant au mot vacuité, il a pris ces dernières années, depuis que les centres et les doctrines bouddhistes ont fait école en Occident, un sens beaucoup plus précis qui est celui du mot sanskrit sunya. Sunya, sunyata, lalaya. Être ou viser à être en état de vacuité ne signifie pas ici faire le vide en soi, à supposer que cela soit possible pour devenir une sorte de bulle creuse, jouet de tous les vents, mais désencombrer son esprit de tout ce qui, en temps normal, l'occupe inutilement. L'accapare et souvent l'obstrue, à savoir les mille pensées, les images, les désirs, les peurs, les appréhensions, les fantômes et fantasmes qui sont les habitants à la fois fugaces et tenace de notre cerveau, de notre mental. Au sens bouddhique du mot, la vacuité consiste donc à clore nos oreilles aux bruits et aux rumeurs parasites qui gênent notre écoute, afin de mieux percevoir en nous l'écho du silence intérieur. Seule l'écoute attentive de notre silence intérieur permet de percevoir le chant des eaux dormantes, dit un poème zen que nous retrouverons plus loin. Ou chasser de nos yeux les images et les reflets factices du monde environnant pour mieux fixer et concentrer notre regard sur la figure désirée ou l'objet recherché. Sourire des apsaras ou chemin coloré des mandalas de sable. Vacuité, désencombrement de l'esprit, toilette mentale des fantasmes, dispersion des formations instables et nuageuses, meublant en permanence notre espace intérieur. Un grand penseur et poète zen d'origine chinoise, Maître Dogen, a traduit dans deux de ses poèmes, en images inoubliables, sa vision de la vacuité. Sous la neige ont disparu les herbes de l'hiver. Un héron blanc cache son corps à l'ombre de sa blancheur. Je voudrais être ce héron qui devient pareil à la neige, et je voudrais être aussi cette neige dont le cœur est un héron blanc. Où qu'il aille, où qu'il vienne, l'oiseau aquatique ne laisse aucune trace. Pourtant, il ne perd jamais son chemin. Je voudrais être cet oiseau qui ne perd jamais son chemin, alors même qu'il est invisible. Et je voudrais aussi être cette eau qui, sans trace sensible et sans trouble apparent, porte à la fois l'oiseau et son chemin.
Un petit rappel si besoin concernant Jacques Lacarrière. Jacques Lacarrière, spécialiste du monde grec, on lui doit notamment en 1961 « Les hommes ivres de Dieu », « Promenade dans la Grèce antique » en 1967, « L'été grec » en 1976. En tout cas, il a consacré également une part importante de son activité au théâtre. On rappellera que Jacques Lacarrière a été le conseiller de Jean Villard et de Jean-Louis Barrault pour la mise en scène des tragédies grecques, conseiller culturel au Festival d'Avignon. Et il a lui-même traduit et mis en scène Ajax de Sophocle au théâtre Récamier. En tout cas, en nous invitant à retrouver Sophocle, Jacques Lacarrière s'est efforcé de restituer en français, dans une traduction précise et intégrale, la force, la musicalité, la modernité du plus grand des dramaturges grecs. Jacques Lacarrière était un écrivain voyageur. Il déclarait d'ailleurs, je le cite, « Ma philosophie, c'est le contraire de celle de l'escargot, ne jamais emporter sa demeure avec soi, mais au besoin, apprendre à habiter celle des autres qui peuvent aussi habiter la vôtre. » Rappelons que Jacques Lacarrière a vécu dans Lyon, dans le petit village de Sassy, où il s'était installé dans la maison familiale. Selon ses dernières volontés, l'écrivain disparu en 2005, eh bien, il a souhaité être incinéré et ses cendres ont été dispersées en Grèce. Les sourates de Jacques Lacarrière sont disponibles en librairie aux éditions Fayam. On les trouve aussi chez Albin Michel dans des collections de poche. Je rappelle aussi que Jacques Lacarrière est l'auteur chez Plon en 2001 d'un dictionnaire amoureux de la Grèce et en 2006 d'un dictionnaire amoureux de la mythologie. Notre nuit de la lecture du 20 janvier dernier à la librairie L'Or des Étoiles de Vézelay n'est pas terminée. On marque une nouvelle petite pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de notre rendez-vous.
Sans faire pour
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Suite de la nuit de la lecture à la librairie L'Or des Étoiles rue Saint-Étienne à Vézelay, c'était le 20 janvier dernier. Tout de suite, laissons la parole à son libraire, Laurent Equet.
Moi, je voudrais vous dire un court texte. Ça m'est venu à l'instant en tournant les yeux vers le petit présentoir qui est là-bas. Vous voyez, c'est d'une philosophe française qui est morte en 1943, qui s'appelle Simone Veil, dont vous avez probablement entendu parler, mais dont vous ne connaissez probablement pas ce court texte où elle célèbre ce qu'elle nomme l'inspiration occitane. C'est un texte, il y a deux écrits dans ce recueil qui témoignent de la découverte que Simone Veil fit très jeune de la civilisation d'Oc et de son épopée la plus connue, la chanson de la croisade albigeoise qu'elle compare dans ce texte à l'Iliade. Ce n'est plus Troie mais c'est Toulouse, ce ne sont plus les Grecs mais les croisés. Et la destruction de cette civilisation par la force brutale va prendre valeur de symbole dans ce texte qui a été publié en 1943 dans les Cahiers du Sud alors qu'elle était déjà à Londres. Et il résonne comme une sorte d'appel à la résistance. Alors, comme toujours, quand on prend un extrait, on coupe un peu une partie du sens, mais je vais m'efforcer de ne pas trop le faire. Ce qui frappe tout d'abord dans ce récit d'une guerre religieuse, c'est qu'il n'y est pour ainsi dire jamais question de religion. Sans doute Simon de Montfort et ses évêques y parlent trois ou quatre fois des hérétiques. Des évêques, en présence du pape, accusent les comtes de Toulouse et de Foix de les favoriser. Et le comte de Foix s'en défend. Les partisans de Toulouse et le poète lui-même, à chaque victoire, se félicitent d'être soutenus par Dieu, le Christ, le Fils de la Vierge, la Trinité. Mais on chercherait vainement quelque autre allusion à des controverses religieuses. On ne peut guère expliquer ce silence dans un poème aussi vivant, je vous rappelle qu'il s'agit de la chanson de la croisade albigeoise, où palpite toute une ville, qu'en admettant qu'il y avait à peu près pas de dissension religieuse dans la cité et parmi ses défenseurs. Les désastres qui s'abattirent sur ce pays aurait pu porter la population soit à s'en prendre aux cathares comme cause de son malheur et donc à les persécuter, soit à adopter leur doctrine par haine de l'envahisseur et à regarder les catholiques comme des traîtres. Apparemment, ni l'une ni l'autre réaction ne se produisit. Cela est proprement extraordinaire. Soit que l'on veuille louer, blâmer ou excuser les hommes du Moyen-Âge. Je précise que j'ai choisi ce texte aussi parce que c'est peu connu, il y a peu d'études sur le sujet, peu de traces, mais il y a eu à Vézelay, en plein cœur du XIIe siècle, une communauté cathare qui était implantée, dont le foyer était vraisemblablement dans la vallée, dans le village de Saint-Père, et qui s'était implantée à Vézelay, tout près de l'actuelle basilique de la Madeleine. Et les cathares ont vécu un certain temps en parfaite intelligence avec les autres chrétiens, jusqu'au jour où il y a eu une révolte et un mouvement social qui a été lancé. Enfin voilà, je referme la parenthèse. Donc ça n'est pas sans rapport avec le lieu où nous sommes. Donc soit que l'on veuille louer, blâmer ou excuser les hommes du Moyen-Âge, on croit volontiers aujourd'hui que l'intolérance était une fatalité de leur époque. Comme s'il y avait des fatalités pour les temps et les lieux. Chaque civilisation, chaque homme, a la totalité des notions morales à sa disposition. Et choisi. Si le père de Saint-Louis, comme le raconte le poème, crut servir Dieu en autorisant froidement le massacre d'une ville entière après qu'elle se fût rendue, c'est qu'il avait choisi ainsi. Son petit-fils devait plus tard choisir de même, et Saint-Louis lui-même aussi, lui qui regardait le faire comme un bon moyen, pour des laïcs, de régler des controverses religieuses. Ils auraient pu choisir autrement. Et la preuve en est que les villes du Midi, au XIIe siècle, choisirent autrement. Si l'intolérance l'emporta, c'est seulement parce que les épées de ceux qui avaient choisi l'intolérance furent victorieuses. Ce fut une décision purement militaire. Contrairement à un préjugé très répandu, une décision purement militaire peut influer sur le cours des pensées pendant de longs siècles, sur de vastes espaces, car l'empire de la force est grand. L'Europe n'a plus jamais retrouvé au même degré la liberté spirituelle perdue par l'effet de cette guerre. Au XVIIIe et au XIXe siècle, on élimina seulement de la lutte des idées les formes les plus grossières de la force. La tolérance alors en faveur contribua même à la constitution de partis cristallisés et substitua aux contraintes matérielles les barrières spirituelles. Mais le poème de Toulouse nous montre, par le silence même qu'il observe à ce sujet, combien le pays d'Oc, au XIIe siècle, était éloigné de toute lutte d'idées. Les idées ne s'y heurtaient pas, elles y circulaient dans un milieu en quelque sorte continu. Telle est l'atmosphère qui convient à l'intelligence. Les idées ne sont pas faites pour lutter. La violence même du malheur ne put susciter une lutte d'idées dans ce pays. Catholiques et cathares, loin de constituer des groupes distincts, étaient si bien mélangés que le choc d'une terreur inouïe ne put les dissocier. Mais les armes étrangères imposèrent la contrainte et la conception de la liberté spirituelle qui périt alors ne ressuscita plus. S'il y a un lieu du globe terrestre où un tel degré de liberté puisse être précieux et fécond, c'est le pourtour de la Méditerranée. À qui regarde la carte, la Méditerranée semble destinée à constituer un creuset pour la fusion des traditions venues des pays nordiques et de l'Orient. Ce rôle, elle l'a joué peut-être avant les temps historiques, mais elle ne l'a joué pleinement qu'une fois dans l'histoire, et il en résulta une civilisation dont l'éclat constitue encore aujourd'hui, ou peu s'en faut, notre seule clarté, à savoir la civilisation grecque. Ce miracle dura quelques siècles et ne se reproduisit plus. Il y a 22 siècles, les armes romaines tuèrent la Grèce et leur domination frappa de stérilité le bassin méditerranéen. La vie spirituelle se réfugia en Syrie, en Judée, puis en Perse. Après la chute de l'Empire romain, les invasions du Nord et de l'Orient, tout en apportant une vie nouvelle, empêchèrent quelque temps la formation d'une civilisation. Ensuite, le souci dominant de l'orthodoxie religieuse mit obstacle aux relations spirituelles entre l'Orient et l'Occident. Quand ce souci disparut, la Méditerranée devint simplement la route par où les armes et les machines de l'Europe allèrent détruire les civilisations et les traditions de l'Orient. L'avenir de la Méditerranée repose sur les genoux des dieux. Mais une fois, au cours de ces 22 siècles, une civilisation méditerranéenne a surgi qui peut-être aurait avec le temps constitué un second miracle, qui peut-être aurait atteint un degré de liberté spirituelle et de fécondité aussi élevé que la Grèce antique, si on ne l'avait pas tout simplement tué. Nous n'avons pas à nous demander comment appliquer à nos conditions actuelles l'existence, l'inspiration d'un temps si lointain. Dans la mesure où nous contemplerons la beauté de cette époque avec attention et amour, dans cette mesure, son inspiration descendra en nous et rendra peu à peu impossible une partie au moins des bassesses qui constituent l'air que nous respirons.
Lecture assurée par le libraire de l'Or des Étoiles à Vézelay, Laurent Ecquet. Nous avons ce soir parlé de Jacques Lacarrière. Je rappelle qu'il existe une association des amis de Jacques Lacarrière. Cette association s'appelle Chemin Faisant. Vous pouvez effectivement en découvrir le site internet sur le www.cheminfaisant.org ou alors vous pouvez adresser votre demande d'adhésion à cette société des amis de Jacques Lacarrière en écrivant à Chemin Faisant, boîte postale numéro 29, 89270, Vermenton. Très bonne soirée à toutes et à tous. C'est pratiquement la fin de ce wagon-livre du 14 février 2018. On marque un dernier temps de pause musicale et puis on se retrouve juste après pour se saluer et pour vous communiquer le programme des semaines à venir. Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion, chaque mercredi à 21h. Et je rappelle que vous nous retrouvez sur le site d'archives de l'émission en pianotant via internet le www.yannickpetit.fr. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. Climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. Fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are real. Clock. I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. And I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. I need you to see. I don't wanna fight no more. I don't wanna hide no more. I don't wanna cry no more. Come back, I need you to hold me a little closer now. Just a little closer now. Come a little closer.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est la fin de ce numéro de Wagon Livre ce soir sur Radion. Je remercie Francette et Laurent Ekay, les libraires de Vézelay, la librairie L'Or des Étoiles, de nous avoir accueillis le 20 janvier dernier lors de la nuit de la lecture. Et puis je remercie surtout celles et ceux qui sont venus dans cette librairie lire des textes et qui ont accepté d'être enregistrés, sachant qu'ils allaient être diffusés dans l'émission littéraire de Radion. Donc merci à elles et à eux d'avoir consenti à se laisser enregistré. La semaine prochaine, 21 février, toujours à partir de 21h sur Radion, eh bien nous vous proposerons la deuxième et dernière partie de cette nuit de la lecture. C'était donc le 20 janvier dernier à la librairie L'Or des Étoiles rue Saint-Étienne à Vézelay. Vous entendrez cette fois-ci le romancier, dramaturge et poète vézelien Jean-Pierre Canet lire un extrait de roman de Jean Giono. C'est donc au programme de Wagon Livre la semaine prochaine. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier d'avoir été avec nous ce soir sur les banquettes de Wagon Livre et sur l'antenne de Radion. Tout de suite, c'est Nuances du Brésil. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.